Directeur de la Radio Insolite, journée olympique aujourd'hui, ce matin au Musée national du sport à Nice pour parler des Jeux olympiques de 2024, parler déjà des Jeux olympiques Alpes 2030, puisque je rappelle que les Alpes-Maritimes et les Alpes vont être un peu impliquées. Et là, cet après-midi, je suis monté dans un insubmersible. Je suis avec un homme. Ah, il n'y a pas de scaphandre là. Comment ça se fait ?
Non, j'ai pas de scaphandre. J'ai du gilet de sauvetage, mais pas de scaphandre. Je me présente, je suis Aymeric Gibel, le capitaine du trois-mâts Belém.
Le trois-mâts Belém, c'est quoi Belém ?
Bah, le Belém, c'est peut-être pour les gens qui connaissent un peu, un des bateaux les plus connus, certainement le plus connu en France, et puis qui quand même est assez connu dans le monde. C'est ce fameux trois-mâts que vous avez sûrement observé en 2024, le jour de l'arrivée de la flamme, qui transportait la flamme olympique depuis Athènes jusqu'à Marseille, le 8 mai 2024.
Et qui est arrivé à Marseille, en effet, comme hier avec Florent Manoudou et une athlète paralympique qui ont remis la flamme en plus à Jules. C'était un moment assez important. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans ?
Alors, ma carrière maritime, elle n'a pas commencé avec le Belém. Moi, j'ai fait un cursus assez scolaire. C'est l'école des officiers de la marine marchande. Donc, moi, j'ai fait celle de Marseille. Après, au gré de mes embarquements divers, parce que quand on est marin de commerce, on n'est pas affrété sur un navire ou comme dans la marine nationale. On est dédié à tous les navires qui naviguent, excepté peut-être les navires militaires, les navires de pêche, mais tout le reste appartient au domaine de la marine marchande. Donc j'ai eu l'occasion de faire un tout petit peu de cargo. Après, j'ai vite translaté sur les navires à passagers avec du ferry pour la Brittany Ferry, de la croisière pour la compagnie des îles du Ponant. J'ai fait un tout petit peu de yachting. Et j'ai quand même aussi un gros passage assez long sur les câbliers de Orange Marine posés du câble sous-marin. Et puis, en parallèle de ça, je faisais déjà beaucoup le Belém. J'en ai fait un peu mon navire principal de par mes contrats. Et puis en 2015, m'a été proposé de prendre le commandement du Belém. Je n'avais jamais commandé, mais par contre, je connaissais très bien le bateau et c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser vraisemblablement.
Est-ce que on peut considérer que c'est une consécration pour vous ?
Oui, d'une certaine manière. Ça n'a pas été un objectif de carrière, mais c'est une consécration parce que quand on analyse le fait, on se rend rapidement, très très rapidement compte que lorsqu'on travaille sur le Belém, on est dans l'exceptionnel. Dans l'exceptionnel historique, dans l'exceptionnel de navigation, parce qu'un trois-mâts début 20e siècle, enfin fin 19e pour être plus exact, c'est unique. Donc cette unicité fait que tout ce qu'on fait à bord relève de quelque chose qui n'est pas appréhendable tant qu'on n'est pas venu à bord.
130 ans d'existence, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est tout à fait ça. Donc 130 ans, le Belém est né en 1896 à Nantes, au chantier du Bigeon. Alors, un petit historique rapide avant cette époque de la flamme olympique. Le Belém sera navire cargo français de 1896 à 1914. Le sixième d'une petite compagnie maritime qui s'appelait Crouan. Et donc, la vocation première du navire est donc de ramener du chocolat pour Monsieur Meunier, chocolat Meunier, de la ville de Belém, d'où le nom de cette ville brésilienne pour ce navire, dont c'était l'escale principale de 1896 à 1914. Alors cette période de navigation sous les couleurs françaises a été quand même assez agitée. Il faut savoir que le premier voyage du Belém est catastrophique. Un incendie majeur a détruit entièrement la cale, obligeant le navire à revenir à vide, dans un mauvais état. Et puis quelques années plus tard, toujours un 8 mai, hein, quand même, cette date très particulière pour le navire, le navire arrive le 26 avril en rade de Saint-Pierre-de-la-Martinique. Il n'y a plus de place, donc le navire va se positionner de l'autre côté de la ville de Saint-Pierre-de-la-Martinique. Et le 8 mai 1902, la montagne Pelée explose, rasant entièrement la ville de Saint-Pierre-de-la-Martinique, 30 000 morts, et tous les navires sur rade sont perdus, sauf un seul, c'est le seul qui a survécu. Ça sera le Belém, parce qu'il est arrivé un petit peu en retard. Donc vous voyez comme quoi des fois d'arriver en retard, ça peut être bénéfique. Puis si je continue sur sur déroulé chronologique, le Belém en 1914 échappera aux affres de la Première Guerre mondiale parce que peu avant déclaration des hostilités, il sera racheté par un lord anglais, le duc de Westminster, qui le transformera. C'est-à-dire que d'un navire de commerce à la voile, on va le transformer en yacht. Et ça se voit sur le bateau, on voit quand même des salons importants. Le salon où nous sommes actuellement n'a pas changé depuis l'époque anglaise, avec des bois précieux, acajou de Cuba, etc. Donc ça sera un bateau pour les puissants, pour les riches, qui naviguera. Donc Westminster de 1914 à 1921. Puis après, ce sera le propriétaire privé qui l'aura le plus longtemps. Ça sera Guinness, le brasseur irlandais, qui possédera ce navire dans la famille Guinness de 1921 à 1951. Donc c'est la période peut-être la plus heureuse du navire, faisant partie du Gotha britannique. Et puis aussi, quand même, à noter que ça sera l'année où Phantom 2, hein, c'est son nom à l'époque, fera le tour du monde de 1923 à 1924, chose qu'il n'a jamais refaite depuis. Et puis, comme je le disais, donc 51, la famille Guinness se sépare de son navire familial, le Phantom 2, à la suite du décès du propriétaire. Et le navire deviendra italien. Alors, il fera navire-école pour un orphelinat basé à l'île de San Giorgio à Venise. Et ceci jusque dans les années 70, une petite décennie un peu transitoire avec un passage chez les carabiniers italiens et puis surtout un sauvetage fin 70, début 80 par la Caisse d'Épargne, notre mécène hein, depuis ces années-là, qui organisera le rapatriement, le rachat du navire, la remise en état du navire pour que le BLM retrouve son pavillon d'origine, le pavillon français. Et navigue bah, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa 130e année, et puis on attend la 131e, la 132e, etc., etc.
J'ai l'impression que sa fonction d'aujourd'hui, c'est un peu être ambassadeur de notre beau pays de France.
Ça, c'est beaucoup le rôle d'un navire d'apparat comme le BLM, bien sûr, de représenter notre histoire. Alors, l'histoire maritime du BLM, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi quand même une histoire mondiale maritime. On représente l'âge d'or des grands voiliers coq métal qui sillonnaient le monde. Et ils n'ont pas eu un âge d'or très très long. Hein. C'est peut-être sur même pas un siècle, on va dire 50 ans de règne vraiment effectif où ces grands voiliers sillonnaient le monde. Bien sûr, après, la propulsion mécanique, vapeur, puis diesel a supplanté ces navires. Donc, ils représentent ce patrimoine maritime mondial. Après, porter les trois couleurs sur un navire, bien sûr, vous représentez aussi votre état. Vous êtes, d'une certaine manière, un oasis français qui navigue. Alors, on est très souvent en France, mais lorsqu'on va à l'étranger, le French style, ben, on essaye de le montrer un petit peu avec notre façon de faire, etc. Mais il faut aussi reconnaître que le BLM est un bateau foncièrement européen parce qu'il a été anglais et italien. Et c'est aussi grâce à eux qu'on l'a encore qui navigue.
Il y a un truc qui m'a fasciné. Quand je suis monté à bord, j'étais avec un des bénévoles de la fondation BLM. Et j'ai entendu 900. Je me suis dit, donc c'est beaucoup. Il m'a regardé, il me dit, non mais vous rigolez, c'est pas beaucoup. 900 personnes. Alors c'est même pas sur les 3 jours puisque vous êtes là depuis avant-hier. C'est juste ce matin. Comment est-ce qu'on explique que les gens viennent comme ça? Ils courent comme ça pour visiter.
Le BLM, c'est un monument historique, donc on a la chance d'avoir un monument historique qui se déplace. Aujourd'hui, ces 3 jours, Cannes a eu un monument historique de plus à visiter dans sa ville, donc c'est quand même un patrimoine qui se déplace. Il faut être très réaliste aussi sur la vision du BLM, la médiatisation du BLM de 2024 qui a été très très fort. Le BLM a toujours eu du succès en France. Clairement, les visites publiques, lorsqu'elles sont bien programmées, avec un peu de communication sur le site internet, en local, avec les offices de tourisme en relais, ça marche toujours. Mais maintenant, c'est vrai que même à l'étranger, on a du succès, parce que le BLM est identifié comme ce navire hein, ayant porté la flamme. Puis aussi, c'est le plus vieux voilier au monde, 3 mâts, qui navigue dans cette échelle-là. Donc c'est tout ça qui ramène un petit peu beaucoup de monde à bord. Donc on n'a pas besoin de survendre le BLM pour que ça soit un succès lorsqu'on arrive dans une ville.
Bon, vous les passez sur la question, il navigue toujours.
Alors oui, en effet, il navigue toujours. On va repartir de Cannes, on ne va pas rester là tout le temps. Alors c'est intéressant votre question parce qu'elle ouvre aussi à quoi sert le BLM. À quoi sert le BLM? C'est une de nos missions, mais ce n'est pas juste un musée flottant que l'on déplace de port en port pour faire de la billetterie. L'intérêt premier du BLM, c'est de pouvoir naviguer avec un équipage professionnel. On est 16 marins professionnels de la marine marchande et nous accueillons 48 personnes. Qui sont ces 48 stagiaires qui viennent naviguer avec nous de port en port sur des stages de 3 à 5 jours. J'ai envie de dire à tous les auditeurs, ça peut être vous. Le BLM a cette particularité unique d'être navire-école civile. Il est fait pour embarquer des civils, dont le seul point commun, c'est qu'ils sont allés sur notre site Fondation BLM, Caisse d'Épargne, et qu'ils ont cliqué sur « Je veux naviguer ». Ils s'acquittent d'un droit de stage et après, ils sont avec nous, ils embarquent avec nous. Donc c'est cette chance aussi de se dire que... Le BLM est ouvert à tous. Et c'est peut-être ça aussi, je rebondis encore sur la question précédente, qui fait que beaucoup dans nos visiteurs ont déjà quelqu'un de leur famille qui a fait un stage sur le bateau, qui a raconté, qui a donné envie. Donc ça entretient le rêve un petit peu, mais c'est un rêve qui est accessible à tous. Tout le monde peut naviguer sur le BLM. C'est vraiment la première mission du navire école civile ouvert à tous.
Mais moi, je vais foncer sur le site internet. Moi, je vais m'inscrire. Hein, parce que franchement, là, ça doit être magique d'être là pendant 4-5 jours. C'est pas beaucoup.
Alors, ben, c'est déjà bien pour appréhender. Après, vous pouvez enchaîner des stages, revenir d'année en année. Alors, cette année, on est complet sur beaucoup de stages. Il nous reste quelques places pour la fin de saison, il me semble. Je ne suis pas les taux de remplissage à chaque fois, mais je sais que Cannes, on va partir à 48 personnes. Sur 48 places, le navire sera complet. Et il y a une deuxième mission, enfin troisième mission, on a parlé de monuments historiques qui se déplacent, de navires écoles ouvertes à tous. Et c'est vrai que depuis 2023, et ça fait écho à hein, ce que vous disiez sur 2024, c'est le BLM est devenu aussi un navire d'insertion. C'est-à-dire avec notre mécène, en remettant les choses à plat, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi la possibilité de peut-être mettre le BLM au service d'associations, de missions locales, souvent encadrées par la caisse d'épargne. Donc ça permet à chaque caisse d'épargne de mettre en avant une association qui, elle, va mettre en avant deux jeunes ou trois jeunes. Et on va tous les mettre ensemble, on va pouvoir les embarquer. Et c'était l'objectif cette année, de faire pour 130 ans, embarquer 130 jeunes à bord du BLM. Donc ça y est, on a fini cette mission-là. Comme vous doutez bien, une mission d'insertion sur un navire comme le BLM, c'est très, ça se comprend, c'est presque inné ou ça vient du sens. Parce que sur un navire tout seul, on ne fait rien, il faut apprendre à vivre ensemble, il y a des codes à respecter, une hiérarchie s'impose d'elle-même. Je ne suis pas un tyran, mais si on n'écoute pas ce que disent les encadrants, le BLM n'avancera pas. Et donc c'est toutes ces codes-là, ces clés-là qui permettent aux jeunes qui embarquent à bord peut-être de retrouver quelques guides qui permettent de les remettre un peu dans le rail. Certains sont en manque de repères, de choses comme ça. Même certains ont eu des vocations en naviguant avec nous et ont décidé de devenir marins et se sont engagés dans des voies professionnelles. Donc cette mission-là nous tient beaucoup à cœur pour nous et notre mécène les caisses d'épargne, parce que c'est vraiment une valeur honorifique de se dire, de donner la chance aux gens qui en ont besoin aussi de pouvoir naviguer sur le BLM. Et donc on effectue cette mission avec grand plaisir et grand privilège depuis maintenant 3 ans.
Pourquoi la création d'une fondation ?
Alors la création d'une fondation, bien sûr, c'est la protection du bien navire BLM. Donc c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique. Notre mécène, les caisses d'épargne, s'est engagé à suivre le BLM. Alors, il fournit 50% de notre budget, notre budget de fonctionnement, depuis maintenant 80, mon année de naissance en plus, donc 46 ans. C'est le plus long mécénat en France sur la valeur cumulée. C'est de l'ordre de 1,5 million, en gros. Donc, c'est pas neutre. L'effort est sincère, véritable et long. C'est ce qui permet au BLM de naviguer. Il faut être très très réaliste. Un navire comme ça ne peut naviguer, ne peut être rentable. Ou alors il faudrait multiplier le ticket d'entrée par deux, mais on serait plus du tout dans la même valeur qu'on veut faire, que tout le monde peut embarquer sur le BLM. Donc c'est une nécessité vraiment strictement nécessaire, parce qu'il y a aussi le monument historique. C'est un vieux bateau, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On est classé par les monuments historiques. Donc il y a tout ce jeu-là qui fait que c'est vraiment le garde-fou d'avoir une fondation puissante basée à Paris. Alors on n'est pas si nombreux que ça à la fondation, hein. On pourrait croire que c'est un grand ensemble, mais non. Et cette fondation a pour but la gestion commerciale, patrimoniale du navire, l'entretien aussi, les relations avec notre mécène. Et c'est pas que l'équipage qui fait naviguer le BLM, il faut être sûr. Il faut des stagiaires à bord, il faut un équipage formé, mais aussi il faut au point de départ une fondation basée à Paris.
Bon, on est quand même à Cannes, hein. Donc le BLM et le cinéma.
Le BLM et cinéma, il y a quelques trucs, mais il n'y en a pas beaucoup.
C'est ce qui m'a surpris. Hein.
Ouais, alors c'est vrai qu'aussi, les trois mâts, les voiliers, on les met souvent dans le rôle avec des bateaux pirates et tout. Et nous, il y a des bateaux qui le font beaucoup mieux que nous. Parce que nous, en plus, comme on est monument historique, on ne peut pas transformer le bateau vraiment. Alors, il dépend d'une époque, début 20e ou même entre l'entre-deux-guerres, hein, la période Guinness-Westminster qui pourrait être intéressante. Le scénario où le BLM pourrait être impliqué n'a pas été fait. On a eu quelques touches, il y a quelques apparitions, mais vraiment très petites, ou des citations dans quelques films. Il faut être un grand, grand cinéphile pour repérer les traces du BLM dans le milieu du cinéma. Donc on n'a pas eu encore cette chance. Peut-être que ça viendra un jour. Il le mérite. Alors faire un film sur lui, peut-être que c'est trop ambitieux, mais qu'il participe un peu à une œuvre cinématographique. C'est un décor vivant ici, hein, vous le voyez là où on est. On pourrait largement s'imaginer une scène début 20e siècle dans un salon. Ou alors peut-être qu'avec la série Guinness sur Netflix, quand ils seront rendus à la saison 4, peut-être qu'ils nous appelleront.
Bon, allez, une dernière question, mais celle-là, je ne peux pas m'empêcher. C'est un bateau qui est tout en bois ?
Eh bien, absolument pas. La coque est en métal.
Ah, c'est pour ça qu'on a pu emmener une flamme, du feu.
Ah oui, c'est pas seulement ça, c'est surtout pour ça qu'il est encore là après 130 ans.
Moi, j'ai suivi comment dire le parcours de ces jeunes qui étaient là en train de surveiller la flamme. Ils avaient les yeux qui pétillaient. Il y en a un qui a dit « Je suis en train de vivre le rêve de ma vie ». C'était à ce point impressionnant.
C'était un rêve éveillé aussi pour nous-mêmes, les encadrants. On s'y était préparé psychologiquement. Bon, c'est vrai qu'on est un peu plus âgé que nos jeunes, donc on a une maturité. Il y a juste un tout petit détail à noter, c'est que d'habitude, quand on embarque des stagiaires, on leur explique des choses, ils sont contents d'être venus et tout. Mais généralement, pour vous donner un exemple, lorsque je fais le briefing de départ, on fait une petite blague ou deux, ça rigole et tout. Et le jour du départ d'Athènes, je commence à faire des blagues et ça rigole pas. Et en fait, j'ai réalisé que tous les gens qui étaient devant moi avaient tous une mission. Il y avait le personnel de protection de la flamme, il y avait les journalistes qui étaient à bord, ils avaient un travail à faire, la protection aussi. Moi, j'avais mon travail à faire. Et ces jeunes, en fait, étaient très impliqués et très sérieux. Et puis aussi un peu apeurés parce que cette mise en avant sur les médias, à cet âge-là, il faut déjà la gérer. Ils ont été un petit peu les stars françaises ou de leur village, ou en tout cas, ils ont pris beaucoup d'implications dans les médias. Donc c'est quelque chose qu'on a accompagné. Puis je pense que oui, il y a une décharge émotionnelle très forte. Une fois que la flamme était débarquée à Marseille, le plus fort de l'émotion, ça s'est pas vu, mais ça a été le lendemain matin quand on s'est quitté. Après ces 11 jours incroyables passés ensemble, où on savait tous que, tous ensemble, on avait vécu une aventure historique extraordinaire, dont laquelle on pouvait être fier d'une certaine manière. Et c'est ce qui a fait que cet épisode, pour ma part, et je le sais que pour l'ensemble de l'équipage, et même de tous les gens qui étaient à bord, et surtout des jeunes, je l'espère, mais j'en suis sûr, a été un point marquant et unique dans l'histoire, dans leur histoire, dans leur vie.
Bon, vous partez en vacances après ?
Alors, je viens juste d'arriver sur le bateau, donc j'ai un petit peu le temps. Moi, les vacances, ça ne sera pas avant le 19 juin.
Mais voilà. Vous partez où alors, après Cannes ?
Alors, Cannes, là, pas pour les vacances, je pars avec le bateau, je pars à Marseille, et justement, on revient, rendez-vous compte, on va réaccoster le Belém le 8 mai 2026, deux ans après, au Vieux-Port, au même endroit, pour cette fois, encore une fois, ouvrir le Belém au public qui puisse visiter, puis peut-être revivre la sensation du Belém il y a deux ans, au Vieux-Port.
Il y a un site internet, il y a une page Facebook qui permet de suivre l'actualité du Belém ?
Oui, bien sûr, vous tapez Fondation Belém et vous arrivez directement sur notre site. Après, il y a des dérivés aussi chez Facebook. On est très facilement visible sur Internet. Donc, n'hésitez pas à voir notre actualité. C'est vivant. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le Belém, son résumé d'histoire, comment on fonctionne, à quoi ça sert un Belém, comment fait-on pour embarquer, nos actualités, nos projets, nos appels à dons. Parce que je le permets aussi d'ouvrir cette parenthèse. Le Belém nécessite, au-delà de son mécénat, que tout le monde s'implique, les collectivités locales, les monuments historiques français, et puis aussi les particuliers qui veulent nous aider dans cette tâche, hein, de participer aussi à leur échelle, à leur effort, de permettre au Belém de continuer à naviguer.
Merci à vous.
Merci à vous.